VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le monde aujourd'hui démarre sur VOA Afrique. Bienvenue à l'écoute en ce mercredi 28 mars 2018. Au micro, Jacques Aristide.
Et Anne Albertson.
À la une ce matin, Anne.
Le rôle des casques bleus renforcé en RDC en vue des prochaines élections jugées cruciales.
Pour cette fois-ci, l'évolution de la situation, nous ne voyons pas comment ces élections vont avoir lieu dans la transparence. Ça risque d'être comme les fois précédentes.
Également dans l'actualité, le Tchad adopte un régime présidentiel, une nouvelle tentative du chef de l'État de s'éterniser au pouvoir d'après l'opposition.
En Côte d'Ivoire, le PDCI, grand allié du président Ouattara, veut une nouvelle commission électorale avant la présidentielle de 2020.
Ailleurs dans le monde, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, accueilli en grande pompe à Pékin avant son éventuel sommet avec le président Donald Trump.
Également au programme, vos rubriques habituelles, la Minute Éco et la page sport.
En Côte d'Ivoire, le PDCI veut des changements avant l'élection présidentielle de 2020. Le parti grand allié du chef de l'État Alassane Ouattara a souhaité hier la mise en place d'une nouvelle commission électorale, tout comme l'a déjà demandé l'opposition ivoirienne qui en a fait son cheval de bataille, Gaby Dorsil.
Jamais le PDCI n'avait adopté pareille position, en tout cas pas publiquement. Pour le parti de l'ex-président Henri Konan Bédié, il est impératif d'avoir une commission électorale capable de rassurer quant à la crédibilité du scrutin. Le porte-parole adjoint du PDCI, Jean-Louis Billon, soutient que l'actuelle entité électorale ne répond plus à la réalité qui prévaut en Côte d'Ivoire. Sans une commission crédible, on risque de s'enfoncer dans une nouvelle situation de crise, prévient l'ancien ministre du Commerce. La position du PDCI, un allié du président Alassane Ouattara, n'est pas différente de celle affichée par l'opposition, qui a même brandi l'arme du boycott au cas où une commission n'est pas établie sur une base consensuelle avant les prochaines échéances électorales, les municipales et les régionales, avant la fin de cette année. Aucun signe jusqu'à présent que le gouvernement ivoirien pourrait se laisser fléchir. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rejeté l'idée de renvoyer l'actuelle commission électorale, rappelant qu'elle est le résultat d'un accord entre les principaux acteurs politiques.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une résolution renforçant le rôle de sa mission en RDC en vue des élections du 23 décembre prochain. La résolution souligne la nécessité de protéger les civils pour organiser le départ du président Joseph Kabila. Le point avec Eddie Isango.
Le texte adopté à l'unanimité, initié par la France, prolonge les mandats de la MONUSCO jusqu'en mars 2019. Il mandate les casques bleus à accompagner l'inscription des électeurs, les scrutins et la transition au sommet du pouvoir attendu le 12 janvier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été appelé à préparer des plans incluant toutes les options, y compris l'envoi des renforts venus d'autres missions de l'ONU. Monsieur Guterres a 3 mois pour faire le point sur ses plans de contingence devant les conseils de sécurité. L'ambassadeur congolais auprès de l'ONU a pour sa part appelé au départ de la MONUSCO. Pour lui, la mission des casques bleus devrait être avant tout de lutter contre les groupes armés pour protéger les civils dans la partie est du pays. Installée depuis près de 20 ans, la MONUSCO est la plus importante mission onusienne dans le monde avec le plus gros budget et personnel, soit plus de 16 000 militaires et des milliers de civils.
RDC toujours, une information judiciaire pour usurpation de nationalité a été ouverte contre l'opposant en exil, Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre. Comment voulez-vous qu'un individu se sachant de nationalité italienne puisse se présenter devant nos bureaux pour avoir le passeport, la carte d'électeur? A commenté Flori Kabange Numbi, procureur général de la RDC. Pour Olivier Kamitatu, porte-parole de M. Katumbi, il s'agit d'un acharnement de la part du régime. Désormais, on va rappeler à tous d'où il vient, y compris M. Joseph Kabila, a-t-il ajouté. Le chef des parquets congolais a également décidé d'un procès pour Moïse Katumbi dans une affaire de recrutement présumé des mercenaires, notamment un ancien militaire américain, pour déstabiliser les autorités de la RDC, d'après Kinshasa.
Au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale a affirmé hier être porteur d'un message de dialogue lors d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région anglophone du Sud-Ouest où l'armée combat les séparatistes anglophones. Paul Atanganji, lui-même anglophone, a déclaré que le Cameroun est un et indivisible.
Le Tchad a décidé d'adopter un régime présidentiel au cours d'un forum qui a pris fin hier à N'Djamena sur les réformes institutionnelles. Les participants ont dans leur majorité opté pour l'application de ce régime présidentiel intégral au lieu du régime semi-présidentiel actuellement en vigueur. Cette résolution prévoit une révision de la durée du mandat présidentiel de 5 à 6 ans. La réaction de l'opposant Mahamat Amat Alabo tout à l'heure dans la partie magazine.
En Éthiopie, la coalition au pouvoir a choisi hier comme nouveau leader et donc prochain premier ministre Abiy Ahmed, un gage d'apaisement à l'égard de l'ethnie Oromo dont il est issu et qui a été pour beaucoup dans la démission de son prédécesseur.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Libériens aux États-Unis vont perdre le statut protégé. L'administration Trump a annoncé hier la fin dans un an d'un dispositif empêchant l'expulsion des immigrés libériens, comme elle l'a déjà fait pour d'autres nationalités dans le cadre d'un durcissement de la politique migratoire américaine. Depuis 1991, lorsque le Libéria était en pleine guerre civile, ses ressortissants bénéficiaient de ce statut de protection temporaire qui permet de travailler légalement sans titre de séjour. Ces protections avaient été prolongées par les administrations républicaines et démocrates successives, même après la fin de la guerre. Le président Donald Trump estime que la situation s'est désormais suffisamment améliorée.
Toujours aux États-Unis, deux policiers impliqués dans l'homicide en 2016 d'un vendeur ambulant africain-américain en Louisiane ne seront pas poursuivis. Le procureur général de l'État l'a fait savoir hier. Yacouba Ouedraogo pour les détails.
Le non-lieu annoncé par le procureur général de Louisiane, Jeff Landry, a été immédiatement dénoncé par la famille Dalton Sterling, la victime. Vous remettez un meurtrier dans la rue, a accusé la tante Dalton, Sandra Sterling. Le rapport du procureur insiste sur le fait que M. Sterling, 37 ans, a résisté à son interpellation. Les deux agents avaient de bonnes raisons de croire que M. Sterling avait une arme et il résistait sans arrêt, a relevé M. Landry. Le père de cinq enfants, surnommé Sidi Man, vendait des CD sur le parking d'un centre commercial. Son apparence physique correspondant à la description d'une personne recherchée, deux policiers blancs ont décidé de l'interpeller. Il a été tué de plusieurs balles alors qu'il était maintenu au sol par les policiers, dont l'un a tiré. Les faits ont été enregistrés par une vidéo amateur qui a contribué à donner une ampleur nationale à l'affaire, avec des manifestations dans diverses villes américaines. Au lendemain de la mort d'Alton Sterling, un autre noir, Philando Castile, a été abattu dans sa voiture par un policier dans le Minnesota, sous les yeux de sa compagne et de la fillette de cette dernière, lors d'un contrôle routier.
Kim Jong-un a été accueilli en grande pompe à Pékin pour sa première visite en Chine, signe de la volonté de rapprochement des deux alliés historiques avant le sommet prévu entre le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump. Il s'agit de la première sortie à l'étranger de Kim Jong-un depuis son arrivée au pouvoir fin 2011. Cette visite où Monsieur Kim Jong-un est accompagné de son épouse s'est déroulée de dimanche à mercredi. Elle n'a été officiellement révélée qu'hier au retour en train du couple en Corée du Nord. Les deux pays voisins étaient divisés ces dernières années par l'appui de Pékin aux sanctions internationales visant à forcer Pyongyang à renoncer à son programme nucléaire. Kim Jong-un n'avait encore jamais rencontré Xi Jinping. Selon Chine Nouvelle, l'homme fort de Pyongyang s'est prononcé pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne et s'est dit prêt à un sommet avec le président Trump après des mois de menaces de guerre entre les deux pays autour du programme nucléaire nord-coréen.
Suite de l'empoisonnement d'un ex-agent double russe au Royaume-Uni, l'OTAN a annoncé de nouvelles représailles. Pour Londres, ce front commun des pays occidentaux pourrait constituer un tournant dans les relations diplomatiques avec la Russie. Moscou a déclaré préparer une riposte. Claire Moret-Gibourg.
L'OTAN a annoncé hier qu'elle avait décidé de retirer leurs accréditations à 7 membres de la mission russe et de rejeter 3 demandes d'accréditation supplémentaires. Pour Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'organisation, c'est un message clair adressé à la Russie. Les comportements dangereux et irresponsables ont un coût et des conséquences, a-t-il déclaré. Ces mesures s'ajoutent aux 121 expulsions déjà décrétées depuis lundi par 26 pays, dont les États-Unis et 18 membres de l'Union européenne, dans le cadre de représailles coordonnées du camp occidental, sans précédent même du temps de la guerre froide. Moscou, qui nie être à l'origine de l'empoisonnement, a promis de contre-attaquer. Nous allons riposter, n'en doutez pas, a prévenu mardi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Selon lui, ces expulsions sont le résultat des pressions colossales de Washington.
Des rebelles et des civils se sont de nouveau rassemblés hier pour être évacués de la Ghouta orientale, où le gouvernement syrien et son allié russe menacent de reprendre leurs bombardements pour reconquérir par la force l'ultime poche tenue par des insurgés. À la faveur d'une offensive lancée le 18 février, le pouvoir de Bachar al-Assad a déjà repris plus de 90% des territoires tenus par les rebelles dans la Ghouta, et son pillonnage quotidien a tué plus de 1600 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
D'emblée, nous passons à la Minute Éco que nous présente ce matin Jean-Roger Bion.
L'ancien président du Nigeria Olusegun Obasanjo regrette la non-adhésion du Nigeria à la zone de libre-échange africaine. Il s'est exprimé hier en marge de Africa CEO Forum d'Abidjan. Monsieur Obasanjo considère que l'accord est un fait historique, comme la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 et l'Union africaine en 2001. Il est perçu comme essentiel au développement économique de l'Afrique. 44 pays l'ont signé, en plus du Nigeria, l'Érythrée, le Burundi, la Namibie et la Sierra Leone allongent la liste des non-signataires. Le groupe français Bolloré injecte 300 millions d'euros dans le transport et la logistique en Afrique. Il est spécialisé dans la logistique portuaire et ferroviaire. En juin 2019, Bolloré va construire à Abidjan un deuxième terminal portuaire capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs fréquentant les côtes africaines. Depuis 2004, Bolloré assure la gestion et l'exploitation du terminal à conteneurs du port d'Abidjan, leader en Afrique de l'Ouest. Il représente 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire. L'agence de notation Standard & Poor's relève sensiblement ses prévisions de croissance pour l'Afrique du Sud à 2% en 2018 et plus de 2% en 2019. Elle se fonde sur le retour de la confiance des investisseurs locaux et étrangers à la suite de la prise du pouvoir de Cyril Ramaphosa. Standard & Poor's fait aussi remarquer que l'Afrique du Sud est l'un des 5 marchés émergents qui seront les plus vulnérables à la normalisation des conditions monétaires dans les pays développés.
Et maintenant, les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
L'Espagne atomise l'Argentine en match amical.
6-1, la facture a été salée hier soir à Madrid. Les champions du monde 2010 et Isco, auteur d'un triplé, ont pulvérisé une Argentine, il est vrai, orpheline de Lionel Messi, blessé. C'est la troisième défaite la plus lourde de l'histoire pour les Argentins, inquiétant à 3 mois de la Coupe du Monde.
Le Brésil aussi est en forme.
Et avec beaucoup d'assurance, le Brésil qui a pris sa revanche contre une pâle équipe d'Allemagne, 1-0. Une victoire hier à Berlin, 4 ans après la fameuse demi-finale perdue au Brésil lors de la Coupe du Monde 2014. 7-1, Gabriel Jesus, le buteur de cette rencontre. Et les autres résultats de la soirée, la Russie battue à domicile 3-1 par la France, les buts tricolores inscrits par Kylian Mbappé, un doublé, et Paul Pogba. Longtemps maladroite devant la cage de Butland, l'Italie a obtenu un nul logique en Angleterre, 1-0.
Et les équipes africaines?
Le Maroc n'a pas souffert du turnover imposé par Hervé Renard contre l'Ouzbékistan, une victoire 2-0. À noter que Ayoub El Kaabi a brillé pour sa première titularisation. L'avant-centre de la Renaissance sportive de Berkane a marqué son premier but sous les couleurs marocaines. La Serbie s'est rassurée en battant le Nigeria 2-0. Mitrovic, qui ne joue quasiment pas à Newcastle, a inscrit un doublé. Quant aux Aigles de Carthage tunisien, ils ont battu le Costa Rica 1-0, tandis que l'Égypte a perdu contre la Grèce sur le même score, 1-0. Et puis les Lions de la Teranga ont encore pioché un nouveau match nul pour les Sénégalais face à la Bosnie, 0-0. Les autres résultats pour les équipes africaines, les Léopards de la RDC s'inclinent 2-0 face aux Taifa Stars de la Tanzanie. Le Kenya battu 3-2 par la Centrafrique. Qualifié pour le Mondial 2018, l'Iran s'est offert l'Algérie en amical à Téhéran, une victoire 2-1. Enfin, la Côte d'Ivoire a battu la Moldavie sur le même score, 2-1. Allez Jacques, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain, les résultats de la nuit.
Oui Nicolas, San Antonio a concédé une deuxième défaite consécutive, 116-106 à Washington. Ailleurs, Denver 110, Toronto 113, Cleveland 79, Miami 98, Chicago 86, Houston 118, Portland 107, Nouvelle-Orléans 103, Dallas 103, Sacramento 97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Jacques Aristide à Washington. Le Monde aujourd'hui, deuxième partie, à venir quatre dossiers, quatre sujets d'actualité sur lesquels nous revenons en profondeur. Et retour justement sur la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU touchant la République démocratique du Congo. Nous vous en parlions tout à l'heure, cette résolution prolonge et renforce le mandat de la mission onusienne dans le pays en vue des élections et d'une passation pacifique du pouvoir. Pour un décryptage de cette actualité, Eddie Sango a recueilli l'analyse du professeur Kalele Kabila. Il enseigne la sociologie politique à l'université de Kinshasa.
C'est déjà vu, il n'y a rien de nouveau. Ce qui pourrait paraître comme un élément nouveau, c'est un problème des élections, appui aux élections. Je pense que pour ce qui intéresse les Congolais, les élections, nous en avons eu en 2006, nous en avons eu en 2011. En 2016, on a parlé aussi des élections, elles n'ont pas eu lieu. 2006-2011, elles n'ont pas été transparentes. Au contraire, on a même nommé les gens. Il y a beaucoup de députés nommés qui siègent. Pour cette fois-ci, l'évolution de la situation, nous ne voyons pas comment ces élections vont avoir lieu dans la transparence. Ça risque d'être comme les fois précédentes. Vous avez l'accord de la Saint-Sylvestre 2016 qui parle des mesures de décrispation. Ces mesures ne sont pas appliquées. Il y a insécurité partout. Ça, ce sont des déclarations qui nous paraissent classiques, mais nous avons besoin de quelque chose de concret sur le terrain.
Une résolution précédente mentionnait déjà les élections. Comment voyez-vous la MONUSCO contraindre les gouvernements congolais, par exemple, à respecter la date du 23 décembre?
Nous restons très sceptiques, c'est pour cela que je disais, c'est du déjà vu, mais si le mandat de la MONUSCO n'a pas changé, comment elle peut exercer d'autres pressions sur le gouvernement congolais? D'autant plus que quand il y a des manifestations et qu'elles s'approchent, on voit les troupes congolaises l'en empêcher. Nous ne voyons pas concrètement ce que ça change, ce que ça va faire sur le terrain. Si ça reste toujours une mission d'observation et non pas une mission d'imposition de la paix.
Cette fois-ci, la résolution est assez précise, demandant à M. Guterres de préparer un plan de contingence qui pourrait accepter l'envoi des troupes, des missions qui sont aux alentours en cas de problème.
Le problème, ce n'est pas le problème du nombre. On se plaint déjà que le nombre qui est ici est pléthorique. Mais si la mission confiée à ces troupes là-bas ne change pas, on peut faire 50 000, 100 000, ça rime à quoi?
Devra-t-elle se retirer comme les demandes du gouvernement?
Progressivement, dans le sens où il faut que le gouvernement parvienne à assumer ses responsabilités. C'est nécessaire. Le gouvernement n'en a pas les moyens. Mais nous doutons très fort de la volonté du gouvernement d'organiser les élections.
Kalele Kabila, professeur de sociologie politique à l'université de Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le Tchad s'achemine vers un régime présidentiel. C'est la proposition faite par le Forum sur les réformes constitutionnelles qui s'est achevée mardi à N'Djamena et qui avait été boycottée par l'opposition et divers groupes de la société civile. Il est notamment prévu de faire passer le mandat présidentiel de 5 à 6 ans, renouvelable une fois. C'est une autre tentative du président Idriss Déby Itno de s'éterniser au pouvoir, estime Mahamat Ahmad Alabo, coordinateur du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, le FONAC. Nous l'écoutons.
Comme il fallait s'y attendre, Déby voulait tout simplement s'éterniser au pouvoir. Nous, on pensait que tout en s'éternisant au pouvoir, il pouvait quand même accepter de partager le pouvoir avec les autres. Mais là, il est devenu un empereur, il a concentré tout le pouvoir à sa personne. Bon, maintenant, il est seul à la barre comme un empereur, il va dicter sa loi et tout ce qu'il voudra au peuple chadien.
Quelques exemples de cette concentration de pouvoir dont vous parlez?
Il a supprimé la primature. L'histoire de la primature chez nous au Tchad est arrivée avec les accords de Khartoum entre le président Mali et Cheikh Hadré. C'était en quelque sorte un partage du pouvoir entre une partie du pays avec une autre. Et donc, ce partage du pouvoir est devenu institutionnel, si vous voulez. C'était une jurisprudence. Voyez-vous qu'on a mis aussi, avec l'appui de la Banque mondiale, le collège de contrôle et de surveillance est devenu pétrolier. Donc, il ne veut plus que quelqu'un lui pose des questions comment il amuse et abuse, n'est-ce pas, des ressources pétrolières. Les accords avec Glencore, c'est lui qui était au début et à la fin. Il a voulu après mettre ça sur le dos des autres, qui ne peut pas réagir. Mais en fait, c'est lui qui a mis le pays à genoux sur le plan financier. Il a complètement ruiné le pays.
Qu'en est-il du redécoupage territorial du Tchad qui avait suscité beaucoup de commentaires avant ce forum?
La commission technique, c'est lui qui l'a mis en place et qui a produit un rapport et distribué avec son aval. Et quand il y a eu un gros tollé dans le pays, et donc il était obligé de se raviser. Mais pas tout à fait. Par exemple, avant, on a voulu amener la capitale du Kanem à Bol, celle du Moïkevi à Pala, celle du VT à Amdjaras. Pour les autres, on a laissé les choses telles qu'elles sont, mais on a coupé d'abord le VT en trois provinces. Dans les Médis, le chef-lieu, la capitale, a été toujours historiquement la ville de Faya. Aujourd'hui, donc, Devi, il a voulu déplacer la capitale de l'Emidi à Amdjaras chez lui. Mais vous savez que l'histoire contemporaine récente est remplie de tels exercices qui ont eu lieu un peu partout par les petits dictateurs de tropiques africains. Et dès leur disparition, tout est revenu à l'ancienne.
L'opposant tchadien Mahamat Ahmad Alabo, joint à N'Djamena par Timothée de Nangmaï.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Dans un rapport publié en début de semaine, l'Institut américain de Georgetown pour les femmes, la paix et la sécurité a sévèrement critiqué les sanctions des Nations Unies à l'encontre des violences sexuelles en zone de conflit. Les auteurs parlent de retard, d'incohérence et de faiblesse dans 8 pays, la RD Congo, le Mali, la Centrafrique, le Soudan du Sud, le Soudan, la Libye, la Somalie et le Yémen. Pourquoi les sanctions sont-elles importantes et comment l'ONU pourrait-elle aller plus loin? Pour des éléments de réponse, Nastasia Peteuil a joint Sophie Uvé qui a rédigé le document.
Je trouve que c'est une très bonne chose que le Conseil de sécurité ait commencé il y a tout juste 10 ans à menacer l'imposition de sanctions et à adopter des sanctions sur les plus gros responsables des violences sexuelles dans les conflits armés.
Que critiquez-vous exactement dans ce rapport?
C'est le fait que la pratique au niveau du Conseil de sécurité est assez contradictoire et assez inégal. Lorsque le Conseil de sécurité va adopter une résolution, il va adopter des critères de désignation. Le Conseil de sécurité a commencé à incorporer des notions de droits de l'homme et de droits humanitaires, parmi lesquels la violence sexuelle. La violence sexuelle est assez massivement répandue dans les 8 pays que nous étudions dans ce rapport, et des pays dans lesquels la violence sexuelle ne va pas du tout être prise en compte et va être complètement laissée de côté, alors que la situation exigerait des mesures beaucoup plus fortes. Le Conseil de sécurité, dans sa pratique, dans ce qu'on a pu voir de sa pratique, réagit assez tard, en fait, quand il reçoit les nouvelles et les rapports d'experts qui constatent les violations dans le pays, qui constatent les violations contre les femmes. Le Conseil de sécurité va menacer l'imposition de sanctions assez tardivement et parfois trop tardivement, ce qui les prive d'effets dissuasifs. Et le Conseil de sécurité va ensuite imposer les sanctions sur les individus, trop tardivement aussi.
Dans ce rapport, vous proposez aussi des recommandations.
Nous pensons que c'est un outil très important, les sanctions, et qu'il y a un vrai potentiel derrière. qui est très important, c'est que lorsque le Conseil de sécurité adopte un nouveau régime de sanctions, de immédiatement incorporer ce critère de violence sexuelle et ne pas attendre des années après les premières violations pour le faire. Par exemple, le Conseil de sécurité a attendu des années après les violations constatées au Congo, après les violations constatées en Somalie, pour enfin adopter un critère qui disait que les responsables de violences sexuelles seraient sanctionnés. Une autre recommandation que nous avons, c'est qu'une fois qu'on menace l'adoption de sanctions, il faut évidemment imposer les sanctions sur les principaux responsables immédiatement, ou en tout cas dès que nous avons suffisamment de preuves. Le Conseil de sécurité est très prudent, voire même trop timide dans sa façon de faire, rechigne à imposer des sanctions sur les membres du gouvernement, comme c'est le cas par exemple au Soudan. Il faut aussi donner plus de ressources aux groupes d'experts qui vont sur le terrain, qui enquêtent sur les violations des droits de l'homme, parce que ce n'est pas normal que dans des pays dans lesquels les violations des droits de l'homme sont aussi massives et les violences sexuelles sont aussi massives, il n'y ait qu'un expert qui enquête sur toutes les violations du droit humanitaire.
Sophie Huvet de l'Institut américain de Georgetown pour les femmes, la paix et la sécurité, basée à Washington.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Linda Brown, une Africaine-Américaine, symbole de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, est morte dimanche à 75 ans. Son refus d'inscription par une école publique du Kansas a débouché en 1954 sur l'interdiction de la ségrégation raciale dans les écoles du pays. Âgée de 9 ans à l'époque, Linda Brown était ensuite devenue enseignante et donnait également des cours de piano tout en travaillant avec sa sœur à la Brown Foundation, fondée en 1988 pour poursuivre la lutte contre les ségrégations. 64 ans après l'arrêt historique de la Cour suprême américaine, le pays reste toutefois marqué par les discriminations, le racisme et les tensions raciales. Pour se remémorer du travail de cette figure emblématique qu'était Linda Brown, John Lyndon s'est entretenu avec la professeure Marilyn Sefolk de Howard University à Washington.
C'est avant tout l'histoire de Brown versus the Board of Education, donc Brown contre le Board of Education. Un cas qui fait partie non seulement des livres d'histoire américaine, mais ça fait partie du tissu même de l'histoire américaine. Il s'agissait là d'enfants de 9 ans, à l'époque elle avait 9 ans, 1951, et elle voulait simplement aller à une école qui soit intégrée. C'est un privilège, entre guillemets, qui ne lui était pas accordé. À l'époque, ça se passe dans le Kansas, la plupart des familles blanches étaient contre l'intégration des jeunes enfants noirs dans les écoles. Et donc, c'est de haute lutte que ces enfants puissent intégrer ces écoles.
Alors, est-ce que depuis cette époque, les choses ont véritablement changé dans le zoning des écoles?
Oui. Alors, malheureusement, on peut constater aux États-Unis qu'il y a toujours, jusqu'à maintenant, des écoles qui ne sont pas, d'après la loi, ségrégées, mais qui sont de fait ségrégées. Pourquoi? Parce qu'il y a cette espèce de zoning qui veut que les enfants aillent dans certaines écoles qui soient non loin de leur lieu d'habitation. Alors, cela crée évidemment une non-intégration.
Linda Brown, c'était une jeune fille. Est-ce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les jeunes filles noires vont à l'école comme cela se doit et quel est leur degré d'intégration?
Le degré d'intégration varie suivant les régions, varie suivant les États, varie suivant les villes. Vous avez souvent une urban population, une population urbaine et une population rurale. Donc, il y a évidemment beaucoup plus d'intégration maintenant que du temps de Linda Brown. Mais on ne peut pas dire que l'intégration est complète aujourd'hui.
Au-delà de l'éducation, quel est l'état de lieu de la lutte pour les droits aujourd'hui aux États-Unis en ce qui concerne les Noirs?
Alors, il y a deux aspects qui sont très importants aux États-Unis maintenant. C'est ce qu'on appelle le racial profiling et aussi le droit de vote.
La professeure Marilyn Sefolk de Howard University à Washington.
Salut les amis, ici Roger Moutou de RM Show sur VOA Afrique à Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique comme d'habitude. Sujet de la semaine, l'argent. Fait-y est-il le bonheur? Oui ou non? Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 3731. Encore une fois, c'est au 001 703 350 3731. Contactez-moi aussi sur ma page Facebook sur Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel. C'est sur VOA Afrique. Peace Africa.
Eh bien, c'est ici que nous allons clore Le Monde aujourd'hui. La réalisation a été assurée par Anne Albertson, Anne qui était également avec nous pour la présentation du journal. John Ellison était à la console. Mille merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire de passer une excellente journée sur VOA Afrique. Take care.